On en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Merci de demeurer actif au 418-971-1021 lorsque j'ai parlé justement de notre entrevue qu'on aura vendredi avec Rose Guérin, cette jeune femme d'une vingtaine d'années qui, à 13 ans, a amorcé un processus de transition de genre. Donc, elle était devenue Maxime, elle est redevenue Rose à 17 ans. On va parler avec elle justement vendredi de sa détransition qui n'est pas payée par la RAMQ. Eh bien, on a reçu énormément de textos. Entre autres, un auditeur qui nous écrit « Ouais, il y a beaucoup de personnes qui regrettent finalement leur transformation de genre et je pense même que c'est plus que ce que j'avais imaginé. Il y a un pourcentage également qui n'ose pas dire qu'il regrette sûrement par honte. » Donc, très bon point. Continuez à nous écrire au 418-971-1021. Pascal, avant qu'on passe avec Rémi Villemur, rappelez que c'est le discours inaugural cet après-midi. Puis là, finalement, devant l'Assemblée nationale, ça semble être les policiers de Québec, je crois, qui sont sans convention depuis 3 ans, qui sont venus manifester.
Moi, les informations que j'ai eues, c'était vraiment pour une manifestation anti-gouvernement.
Okay. Est-ce que d'autres se sont... Vous voyez ça tantôt, des pancartes, 3 ans sans...
Bien, peut-être que sans... ça s'est aussi mélangé. Puis je me suis même demandé si c'était pas les travailleurs du communautaire qui récemment étaient là puis se disaient « Hey, ils retournent à l'Assemblée nationale, on va se faire entendre. » Bien, c'est sûr que c'est ça la nouvelle. C'est le discours inaugural à l'Assemblée nationale. Tout le monde retourne entre les murs. Donc, c'est une bonne façon de se faire voir, de manifester aujourd'hui. 14h, on attend Christine Fréchette au micro.
Rémi Villemur est avec nous, animateur au 99.5 Montréal, du lundi au jeudi de 18h à 19h, et également les samedis de 8h à 10h avec la collègue Jacinthe Varel. Rémi, comment vas-tu?
Toujours bien, toujours bien.
Cool, nous autres aussi. Rémi, est-ce que QS joue dans la trempe de Justin Trudeau en affirmant que si le Québec est indépendant, mais qu'est-ce, tous les résidents permanents vont avoir leur citoyenneté québécoise?
Ben, moi, je trouve que c'est une très bonne proposition. Je comprends même pas comment c'est possible qu'on n'y ait pas pensé en 95. Je pense qu'on y a pensé, mais qu'on avait décidé de ne pas aller là. C'est une très bonne option. Moi, je le salue quand des partis qui n'ont pas beaucoup d'atomes crochus avec moi proposent tout de même des bonnes idées. Par contre, j'ai une petite réserve que voici. Quand on veut faire un pays, quand on veut briser un autre pays en deux, quand on veut menacer la souveraineté territoriale d'un pays comme le Canada, on fait pas juste dans les politiques publiques et dans de la politique aérie. On est en guerre d'une certaine façon. Et là, je trouve qu'on montre nos cartes un peu trop d'avance. Parce que mettez-vous à la place du fédéral en ce moment. Là, vous avez Québec solidaire qui ne prendra jamais le pouvoir. Mais quand même, Québec solidaire qui risque d'être dans l'autobus du oui et qui propose cette idée-là. Pensez-vous vraiment qu'il n'y a personne à Ottawa qui va se dire « Hmm, comment on réagit à ça? » Parce qu'on parle quand même de centaines de milliers de personnes qui pourraient effectivement décider de voter oui plutôt que de voter non. Hein? Ou alors, parce que là, des résidents permanents, juste pour comprendre, ça n'a pas forcément le droit de vote, mais ça peut parler, par exemple, à des gens qui sont citoyens puis qui, eux, peuvent changer leur vote et être influencés comme ça. Donc, il faut être précis. Mais si vous donnez votre carte comme ça d'avance, vous donnez la possibilité au fédéral de réfléchir à une stratégie alternative. Et qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ben, de promettre exactement la même chose.
Exactement.
De dire si ça ne passe pas, OK, on va vous donner la citoyenneté à ceux qui sont en attente de l'avoir. Donc, j'aurais vraiment préféré, de la part des souverainistes, qu'ils gardent cette carte-là. Ça, tu gardes ça à 3 jours du vote. Hein? Il y a un référendum... je dis pas n'importe quoi, le 1er mai, ben, tu sors ça le 27-28 avril. Tu dis, regardez, là, on s'est assis, puis on a bien vu que ça marchait pas, que dans certains quartiers multiethniques, ça levait pas. Donc, tu promets ça. Hein? Tu gardes ça pour la fin. Tu prends pas tes cartes d'avance. C'est une habitude chez les souverainistes que de faire ça.
Je suis d'accord avec toi, parce que même ça pourrait amener à ce qu'on a vu en 1995, c'est-à-dire que là, le Canada décide de donner la citoyenneté à énormément de résidents permanents, puis ça va faire en sorte que le vote du non va se gonfler. Donc, en effet, est-ce que c'est la preuve que, justement, le camp du oui est complètement disparate présentement entre le PQ et le QS?
Non, je pense pas. Je pense que c'est la preuve qu'il y a, par contre, une dose de naïveté dont on ne parvient pas à se débarrasser. Franchement, on pense qu'il faut tout afficher, qu'il faut tout montrer, qu'on ne peut rien garder secret, parce qu'on n'a pas l'impression d'être véritablement en guerre. Et quand je dis le mot guerre, il ne faut pas imaginer des soldats, mais il faut imaginer quand même une entreprise politique très, très sérieuse. Et je sais que difficile pour les souverainistes parce que d'un côté, on leur demande d'être plus clair, d'être précisé quel est leur projet. J'écoutais encore Paul Saint-Pierre Plamondon chez Olivier Primeau dans son podcast. Olivier Primeau le talonne pendant une demi-heure, Paul Saint-Pierre Plamondon, en lui disant, on peut-tu avoir plus de détails en vue de l'élection? Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon est là à dire, je peux pas vous donner, non, je dois garder certaines affaires secrètes, puis je dois aussi les annoncer au fur et à mesure. Donc, on a d'un côté des gens qui disent, on veut en savoir plus, et je les comprends. Puis on a aussi la nécessité pour les souverainistes de ne pas tout révéler. Parce que plus vous révélez votre stratégie, plus vous donnez la possibilité au camp adverse de se préparer. Parce que je précise quand même une chose, les souverainistes vont amorcer la campagne référendaire le jour où elle va s'amorcer. Mais le camp fédéral est en campagne référendaire à l'année longue depuis des décennies. Il y a des fonctionnaires qui réfléchissent à cette question-là, ne serait-ce qu'à temps partiel. Il y a des gens dont le travail, c'est de protéger l'intégrité territoriale du pays. Donc, ces gens-là ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour se préparer. Il faut surtout le savoir quand on est souverainiste.
Rémi, tu réponds quoi à la question qu'on vient de recevoir par texto et continue de réagir au 418-971-1021? Si le Canada ferait un truc du genre, on appellerait ça de la tricherie. Mais là, oh non, ça n'est pas. Est-ce qu'on est vraiment deux poids, deux mesures?
Ben, en même temps, on a appelé ça de la tricherie, mais personne n'a considéré véritablement que c'en était. Parce que si ça avait été de la tricherie, les tribunaux auraient tranché, puis on y aurait eu des conséquences pour le camp fédéral. Donc, j'ose pas croire qu'on a véritablement appelé ça de la tricherie. On l'a peut-être pensé dans des cuisines, puis entre deux bières à la taverne, mais il n'y a personne à l'Assemblée nationale qui a mené cette idée-là selon laquelle c'était de la tricherie, et surtout, ça a été mené nulle part. Non, c'est pas de la tricherie. On appelle ça jouer une joute politique, et c'est un enjeu qui bénéficie d'une couche de profondeur symbolique plus importante. C'est-à-dire, c'est pas décider combien d'argent on met dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'enlève rien à ce projet-là. Mais ça, c'est un projet d'actuariat politique. On gère des fonds publics. Faire un pays, c'est autre chose. Donc, ça engage un autre niveau de profondeur sur le plan stratégique. Ça engage un autre niveau d'implication. Et il faut réfléchir à cette chose-là. Il faut se le demander. Moi, je salue honnêtement l'idée que Québec solidaire a eue. Voyez-vous, quand ils font ça, ils font exactement ce qu'ils doivent faire. C'est un parti souverainiste de gauche qui le dit depuis des années. Nous, on a la responsabilité de nous adresser aux immigrants. On estime que le Parti québécois, avec son discours plus conservateur et identitaire, n'y parviendra pas. Donc, autant je suis souvent pas en mesure de dire voici une bonne idée, puis je me range pas derrière le projet de Québec solidaire, que là, je trouve qu'ils font exactement ce qu'ils doivent faire.
Rémi, tu voulais également nous parler d'argent et notre rapport citoyen par rapport à l'argent public et entre autres, tu nous mets des implications du gouvernement versus justement des considérations qui sont hors de notre contrôle. Par exemple, un investissement de 26 milliards pour la guerre en Ukraine et également tout ce qu'on investit en soins de santé temporaires pour les réfugiés. À quoi tu voulais nous allumer?
Bien, en fait, l'argent qu'on envoie en Ukraine, c'est loin d'être hors de notre contrôle, hein. C'est nous qui décidons ce qu'on fait. En fait, c'est peut-être hors du contrôle des citoyens qui n'ont pas vu dans la plateforme du Parti libéral à la dernière élection qu'on allait donner 270 millions de dollars de plus à l'Ukraine. Ça élève le tout à 26 milliards maintenant. Donc, ce dont je veux vous parler, c'est, avez-vous remarqué, quand on voit passer des sommes comme ça, on dirait que c'est comme si on nous annonçait qu'il allait y avoir des travaux sur le pont de Québec ou s'il allait y avoir une voie de fermée sur le boulevard
C'est
Saint-Joseph.
clair. On s'est créé une habitude d'annonce de milliards de dollars comme on s'est créé une habitude que le gaz est maintenant rendu à 2 piastres le litre.
Exactement. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, 26 milliards de dollars. Ah, OK, ben ça doit vouloir dire, ça doit être la bonne affaire à faire. J'imagine 270 millions de dollars. Ah, ben ça doit être ça. Et hier, j'ai reçu, mais c'est un autre sujet, mais c'est le même sujet.
Vas-y donc.
J'ai reçu un avocat en immigration à mon émission parce que le gouvernement fédéral a annoncé qu'à compter du 1er mai, c'était vendredi dernier, les demandeurs d'asile et les réfugiés pourront pas voir tous leurs services de santé être remboursés à 100% par le gouvernement. Donc maintenant, on a par exemple 10 séances de psychothérapie qui sont remboursées à 100% et à compter de la 11e, il faut payer, si on est demandeur d'asile ou réfugié, 30% de la somme. Puis bon, il y a d'autres soins également qui rentrent dans cette
Ben,
mesure-là.
tu sais, je t'interromps 2 secondes, mais c'est copier un régime d'assurance collective, là. Je veux dire, si tu veux des soins d'un psychologue, souvent dans les assurances, ben, tu vas payer, mettons, 80 ou 70 % les 10 premières séances. Je veux dire, tu vas payer juste 30 % les 10 premières séances, puis après ça s'inverse pour le reste des séances.
Oui, puis je veux dire, je vais juste préciser une chose. Quand vous souscrivez à une assurance collective, vous payez une prime
Ben,
d'assurance.
c'est ça,
Il y a
exactement. Ce que le
beaucoup de
réfugié
demandeurs
fait
d'asile et
pour.
de réfugiés qui n'ont pas de permis de travail, donc ils ne
C'est
payent pas
ça.
d'impôts, ils payent peut-être juste de la taxe quand ils s'achètent un paquet de gomme au dépanneur. Là où je veux en venir, c'est que j'ai reçu cet avocat-là qui s'oppose à cette réduction des services-là. Et moi, je suis correct, hein? Je peux admettre qu'il y a un débat, qu'on puisse être pour, contre. Je peux même devoir le dire, c'est quasiment moral parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on devrait aider tout le temps, tout le monde, peu importe si on a les moyens. Mais j'ai demandé à cet avocat-là, qui était très sympathique, hein? Est-ce que vous savez combien ça nous coûte par année? Et il m'a dit, je ne sais pas. Puis j'ai dit, OK, est-ce que vous savez combien de gens on aide avec ça? Et il m'a dit, je ne sais pas. Et là, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui sont contre la mesure du gouvernement sans savoir combien ça nous coûte. Mais c'est parce que ça nous coûte, par exemple, au Québec, ça nous a coûté 750 millions l'année passée. Mais pour certaines personnes, bah, c'est pas grave. Ça pourrait coûter 8 milliards, que ça ne ferait pas une différence. Je pense que dans un débat comme ça, la moindre des choses, c'est de savoir combien ça nous coûte, combien de gens bénéficient de ça, si on peut se le permettre. Sinon, on n'est plus en train d'avoir une discussion sérieuse, là. On est en train d'avoir une discussion qui s'axe autour du bien et du mal, le bon, le mauvais, les méchants, les gentils. Mais ce n'est pas de la politique, ça.
Non, je suis d'accord avec toi. Puis vois-tu, t'sais, moi, je vais te faire une confidence. Le 26 milliards pour l'Ukraine, même si c'est 26 milliards de dollars, il ne me dérange pas parce qu'on se bat pour que la démocratie demeure et non pas qu'un régime comme la Russie s'empare d'un territoire. Fait que je me dis, ben, coudonc, on mettra ça, ces intérêts de la dette, mais on va se battre pour notre démocratie. Mais, tu sais, je prends le choix, je prends cette position-là en étant conscience de l'argent énorme qu'on investit. Mais pour moi, la mission démocratique prend le dessus sur le 26 milliards.
Mais c'est correct et je respecte ton point de vue. Par contre, quand j'entends Mark Carney dire hier en Arménie que cet argent-là va servir d'une bonne façon puisque l'Ukraine avance et la Russie recule, je regrette, mais c'est faux. Donc, demander à n'importe quel expert de ce conflit-là, l'Ukraine ne remportera pas ce conflit-là
Non.
aussi longtemps qu'il n'y aura pas des soldats européens qui viendront prêter main-forte aux soldats ukrainiens. Donc, moi, c'est correct, Jeff, hein, tu as le droit de penser ça. Sauf qu'on te ment, par contre, quand on te dit que l'argent va finir par payer, puis l'Ukraine va finir par gagner. Donc, moi, je refuse de me faire mentir en pleine face, surtout si ce mensonge-là me coûte 270 millions de dollars, puis qu'on me dit en plus que ben, le coût de la vie augmente, que l'inflation augmente, que les familles n'en ont pas plus dans leur poche, que les jeunes n'auront pas de maison. Ah, je sais pas. Je sais pas si on peut se permettre ça, sincèrement.
Non, mais je suis très d'accord. C'est un beau positionnement également que tu as de ton côté. Puis c'est ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de jaser de positionnements différents en se respectant et en se comprenant l'un et l'autre. Rémi Villemur, toujours un bonheur. On se reparle jeudi.
Bye bye tout le monde.
Salut,
Salut.
Rémi Villemur, sur nos ondes, les mardis et jeudis en chronique aux alentours de 13h10. Ce 13h15, ça amène toujours des sujets très intéressants. On fait une courte pause et par la suite, c'est la journaliste du Journal Le Soleil, Victoria Barry, qui va venir s'asseoir avec nous. Elle était venue la semaine dernière nous raconter les deux premiers jours de cette enquête publique du coroner Luc Malouin sur la mort tragique de Maïline Lugaise. Et bien là, elle va venir nous parler des témoignages poignants des deux parents. La mère vendredi et le père hier. Donc, c'est ce qui suit à l'émission d'Angeaz.